Retrouvez Un moment pour la Terre, une émission mensuelle, chaque dernier mercredi du mois, de 9h15 à 10h sur Fréquence Mistral 99.3. Cette émission mensuelle est proposée par France Nature Environnement 04 pour mieux connaître les moyens et les raisons de préserver la nature. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois de 9h15 à 10h sur Fréquence Mistral 99.3. Et c'est tout de suite. Bonjour Martine Vallon.
Bonjour.
Présidente de France Nature Environnement 04. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de l'huile de palme.
Oui. Alors, j'ai choisi ce thème parce que effectivement, dernièrement, il y a quelques jours, le préfet du département des Bouches-du-Rhône a signé une autorisation donnée à Total d'exploiter la première bioraffinerie française de taille mondiale, une des plus importantes d'Europe selon le groupe pétrolier. Et cette production de du biodiesel, enfin moi je dirais plutôt de l'agro-diesel, doit démarrer cet été. Donc c'est une reconversion de l'ancienne raffinerie de la Mède qui avait été ouverte en 1935. Alors c'est vrai que aujourd'hui, alors que le Parlement européen s'est prononcé en janvier pour l'élimination progressive de l'huile de palme dans les agrocarburants d'ici 2020, paradoxalement, nous, on ouvre une raffinerie qui est censée s'occuper, enfin transformer donc une grande quantité d'huile de palme. Alors, ça ne traitera pas uniquement de l'huile de palme, bien sûr, puisqu'il est prévu qu'il y ait 30 à 40% de graisse animale ou d'huile alimentaire usagée ou d'huile résiduelle qui doivent être traitées. Mais cette raffinerie prévoit donc d'utiliser 60 à 70% d'huile végétale brute. Alors, les huiles végétales brutes, ce n'est pas uniquement l'huile de palme, bien sûr. On a aussi le colza, le tournesol, le soja, le maïs et une nouvelle variété qui est une sorte de moutarde qui est aussi utilisée. Donc, c'est la carinata qui est aussi utilisée pour fabriquer de l'huile. Alors, simplement, aujourd'hui, donc c'est pour ça que je souhaitais aborder cette question de l'huile de palme. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on importe déjà une très grande quantité d'huile de palme, surtout pour l'agroalimentaire, essentiellement à l'heure actuelle. Mais c'est des quantités énormes. On est à 136 000 ou 140 000 tonnes par an d'importation, et cette raffinerie fera que on va doubler ou peut-être tripler la quantité d'huile importée. À l'heure actuelle, il est prévu 300 000 tonnes par an à peu près, ce qui est énorme. Alors, il y a eu des discussions, un dialogue avec le ministère de la Transition écologique, bien sûr. Nicolas Hulot avait promis en 2017, quand il est entré au gouvernement, il avait promis de mettre fin à l'importation d'huile de palme en France. Or là, effectivement, on est loin de mettre fin puisqu'on va multiplier les quantités. Ce qui a été négocié, c'est effectivement d'essayer de restreindre un maximum l'approvisionnement en huile de palme pour cette raffinerie. Et donc, il est prévu qu'on reste sur un volume de 50% de la totalité des huiles utilisées et du recyclage. Notamment, il doit y avoir une augmentation progressive et l'utilisation de produits issus de l'économie circulaire, donc notamment le recyclage de graisse animale, qui pourrait représenter 100 000 tonnes par an environ sur l'approvisionnement du site, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc on a effectivement essayé d'augmenter ça. Mais tout de même, c'est quand même extrêmement grave d'augmenter notre utilisation de l'huile de palme et d'augmenter ses importations dans la mesure où ça a des conséquences. Alors, on va le voir tout à l'heure sur, effectivement, nous, consommateurs, dans la mesure où une partie est utilisée dans l'agroalimentaire. Donc ça, on verra cet aspect-là. Mais même pour ce qui concerne les agrocarburants, à l'heure actuelle, on pourrait envisager peut-être d'utiliser plus de produits locaux, de produits français métropole, par exemple, plutôt que d'importer quelque chose qui entraîne de grandes conséquences sur d'autres secteurs de la planète. Alors, qu'est-ce que c'est que l'huile de palme ? En fait, c'est une huile végétale qui est extraite généralement par pression à chaud de la pulpe de fruits du palmier. Donc, c'est un arbre dont on tire aussi. Alors, il y a l'huile de palme qui vient du fruit et puis l'huile de palmiste qui est extraite du noyau des fruits. Donc, il y a ces deux types d'huiles qui sont importées et utilisées. Ça fait très longtemps qu'on l'utilise en France, dès le 19e siècle, mais c'était à ce moment-là plus pour des huiles industrielles, mécaniques, etc. Ensuite, on a découvert son intérêt par rapport à l'alimentation et donc à cette utilisation en termes de graisse. Alors, c'est un petit fruit qui est gros comme une noix à peu près, donc qui pousse par grosses grappes sur un palmier. Et aujourd'hui, l'Indonésie et la Malaisie sont les premiers producteurs, les principaux pays producteurs mondiaux. Globalement, 85% de la production vient de ces pays-là. Elle est utilisée donc chez nous, par exemple, pour en remplacement de graisse animale, puisque ces graisses animales sont censées être nocives pour la santé. Donc, on a progressivement transformé et on a aussi progressivement abandonné les huiles végétales hydrogénées, qu'on appelle trans, pour remplacer donc par l'huile de palme. Et du coup, ça entraîne une consommation mondiale qui est en croissance permanente. En 2020, on envisage que ça atteigne 40 millions de tonnes, alors qu'on en avait en 2010 22 millions et demi. Donc on doublerait la consommation. C'est aujourd'hui l'huile la plus consommée dans le monde. C'est 25% de la consommation mondiale d'huile, plus que l'huile de soja ou le colza qui est à 12% ou le tournesol. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend une ampleur cette performance, on pourrait dire, s'explique par le fait qu'elle est très peu coûteuse à produire. Le rendement à l'hectare est très important. C'est 10 fois plus élevé que celui du soja. On a, par exemple, pour 100 kilos de fruits, on a à peu près 22 kilos d'huile. C'est aussi quelque chose qui est très facile à cultiver. Le palmier donne des fruits régulièrement, enfin 2 fois par mois à peu près, pendant toute l'année, pendant 25 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une plantation, effectivement, on en a pour un petit bout de temps. Ensuite, la plupart du temps, les palmiers sont coupés parce qu'ils deviennent trop hauts. C'est difficile à récolter. Donc, à ce moment-là, on les coupe et on fait du bois exotique avec. On utilise en fabrication de planchers. Ou parfois, les plantations sont brûlées et replantées. Alors, on pourrait... Donc, je voulais vous parler des problèmes que ça pose en termes d'environnement, bien sûr, des problèmes qui sont des problèmes sociaux, qu'on pourrait qualifier de sociaux dans les pays producteurs, donc Malaisie, Indonésie. La difficulté, c'est effectivement une très grande déforestation. Et puis, je voulais aborder aussi la question de la santé, puisque pour nous, effectivement, on a le plaisir de consommer l'huile de palme fait que on pourrait essayer de se poser la question de cet impact que ça peut avoir. Aujourd'hui, on se rend compte que ça n'est pas la panacée et qu'effectivement, c'est peut-être pas mieux que de consommer parfois un peu de beurre ou de saindoux. Et donc...
Et surtout, il y en a dans beaucoup d'aliments.
Il y en a dans énormément d'aliments, non seulement
donc
des aliments.
Donc on en consomme même sans le vouloir.
C'est un des problèmes soulevés par les diététiciens, effectivement. On en consomme sans le vouloir, sans s'en apercevoir, sans le savoir. Et donc il est extrêmement difficile d'arriver à connaître la quantité qu'on peut consommer dans l'année. Donc, effectivement, l'impact sur la santé est aussi lié à la quantité consommée. Et une des difficultés, par exemple, aujourd'hui, c'est que les adolescents sont ceux qui en consomment énormément parce que, ils ont tendance à consommer des produits qui en contiennent et avoir une alimentation qui est très basée, petit déjeuner avec des céréales qui ont... je dis ça, les croquettes pour enfants, mais ces céréales qui en contiennent. Je ne reviendrai pas sur le Nutella. Maintenant, tout le monde sait qu'effectivement...
Voilà. Là, il y en a une bonne quantité.
Il y en a une grande quantité. Les aliments préparés, etc. Donc, il y en a vraiment dans beaucoup de types d'aliments différents. Et... Et puis, je terminerai peut-être aussi en posant les questions de comment agir, que pouvons-nous faire, comment essayer peut-être de diminuer nos quantités de consommation et d'essayer de peser pour que cette catastrophe écologique annoncée, parce qu'on va vraiment vers quelque chose de cet ordre au vu de la rapidité avec laquelle la situation évolue. Donc, pour essayer d'éviter
la catastrophe.
Oui, voilà.
On fait une pause musicale avec des chants chamaniques.
Oui, des chants de la forêt.
D'accord. À tout de suite.
Watanta kakuwe masu dorani pakari ambi Aluna ha ha jeva velo etambe tadigo Eneko patolo pachama ma pakarihi ambi Eriri etambe tadigo Aluna ha ha jeva velo pakarihi ambi Eriri Dee 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 d Patama ma pei hei di 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 hei hei hanan pa cha pa cha ma ma kai pa cha pa cha ma ku ku pa cha pa cha ma e tan de ta ri mu pa ka ri am di ha su hei di hei di 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 a luna hava lleva velo Ene coñeque lleva goama Tamanibi monae Pacari ambi Aosu reiriri Lirireiri 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 Chante stam Pacari bukuta urakan, pacari hambi auto teni, hei di 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 di, hei 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 hei, tante tante, pacari hambi, inti 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 jatte, pamuri mate. Mata kai de huame to hito ma pakari hambi osu hei 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 pakari panaja osu hei 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 Ha ba ha, mungwangega ha ba, kuemeni, kuama.
Voilà, on reprend donc cette émission Un moment pour la Terre au sujet de l'huile de palme et son importation. Donc on a vu avec Martine Vallon que c'est pas sans conséquences et ça commence déjà par les problèmes de déforestation dans les pays producteurs.
Oui, donc effectivement, comme la plupart du temps, lorsqu'il y a ces grandes exploitations industrielles qui se mettent en place pour une production, une monoproduction, on a un certain nombre de problèmes qui se posent et qui sont corollaires à ce fonctionnement-là. Alors, par exemple, des problèmes sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des expropriations de petits paysans dans des zones où il n'y a pas de cadastre, par exemple. Donc, on peut leur prendre les terres utilisées. Il y a une disparition souvent de l'agriculture vivrière, puisque on les oriente vers ces monoproductions, ou bien ils deviennent salariés de ces exploitants industriels. Donc on a des conditions de travail. Par exemple, Amnesty International a fait un rapport sur les conditions de travail en Indonésie et Malaisie dans ces exploitations de palmiers. Et on a des éléments du type travail des enfants, du travail forcé, des pratiques qui sont dangereuses pour la santé des ouvriers. Par exemple, l'utilisation d'un grand nombre de produits phytosanitaires qui sont utilisés sans précaution d'usage et par des gens qui ne savent pas forcément tout ce que ça peut impliquer ou qui, s'ils le savent, n'ont pas le réflexe de se protéger. Donc on a ces problèmes-là. Et puis, on a aussi des problèmes environnementaux, bien sûr. Donc, c'est une déforestation à outrance. Sur des zones, ce sont des forêts primaires tropicales, notamment, par exemple, l'île de Bornéo est aujourd'hui complètement transformée par ces monocultures intensives. Et les choses sont faites. Enfin, on rase des millions d'hectares pour planter du palmier. Et donc, globalement, enfin, les chiffres disent 2 millions d'hectares par an entre 90 et 2015, c'est-à-dire l'équivalent du Royaume-Uni qui ont été détruits. Alors, ça veut dire effectivement une diminution importante de la biodiversité dans des zones où effectivement cette biodiversité est la plus riche. Et cette destruction, c'est la destruction des habitats qui entraîne ça. Donc là, aujourd'hui, on a par exemple les orangs-outans qui sont en danger d'extinction, d'autres races de singes aussi, les gibbons, les tigres, éléphants, rhinocéros, enfin tous ces animaux qui ont besoin d'espace et d'espace vivant et multiples, donc sont en danger à cause de ça, plus tout ce qui est les émissions de gaz à effet de serre. Ça fait partie des cultures les plus impactantes à ce niveau-là, dans la mesure où des milliers d'hectares sont brûlés chaque jour. L'Indonésie, c'est devenu le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre, donc entraînant bien sûr un impact sur le réchauffement climatique. Donc c'est vraiment l'importance énorme de ces quantités d'arbres coupés, brûlés, déforestés, tout ça entraîne un impact localement extrêmement important et même à l'échelle mondiale, bien sûr, puisque un impact sur le changement climatique, ça va aussi revenir vers nous, forcément.
On parlait beaucoup à un moment donné des problèmes du soja, par exemple. Ça, c'est encore supérieur à l'exploitation de soja.
Oui, c'est encore pire, semble-t-il. Et aussi parce que ce sont sur des forêts tropicales, donc des forêts extrêmement anciennes. C'est forêts primaires, forêts secondaires, c'est vraiment des zones en termes de biodiversité. C'est vraiment les premiers lieux. Un patrimoine mondial extrêmement important. Alors, à l'heure actuelle, il y a, par exemple, des recherches qui sont faites sur l'idée d'un label. Donc, il y a une table ronde pour l'huile de palme durable qui a été mise en place. Donc, c'est un dispositif qui rassemble les industriels de l'agroalimentaire, les producteurs d'huile de palme, certaines ONG, pour promouvoir une huile de palme durable, donc à travers un label. Simplement, ce label n'interdit pas la déforestation ni l'utilisation de certains produits phytosanitaires très graves, donc, puisqu'il y a aussi quand même cet aspect-là qui est une pollution donc, par cette culture, donc contamination des sols, de l'eau, par l'utilisation intensive de pesticides, d'herbicides et d'engrais chimiques. Donc, par exemple, le paraquat, qui est un produit très toxique, qui est identifié comme cancérigène, qui est interdit en Union européenne depuis 2007 et qui est utilisé là-bas couramment, donc sur ces cultures.
Donc ça se rajoute encore
donc ça se rajoute
à la pollution.
Voilà, et aux problèmes locaux en termes d'environnement, de santé des populations, etc. Et donc, aujourd'hui, les forêts primaires et les tourbières, depuis 2005, seraient protégées, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas créer une nouvelle palmeraie sur une forêt primaire. Mais sur les forêts secondaires, ça continue. Le dispositif est très peu contrôlé. Donc, en fait, l'huile de palme durable, aujourd'hui, c'est un vœu pieux, mais ça n'est pas une réalité. Et pourtant, ça pourrait être, si on arrêtait aujourd'hui, enfin, ou si on, voilà, si on se dit, on continue sur la production, sur ce qui a été fait et qu'on ne peut plus revenir en arrière, effectivement. Ça pourrait être effectivement quelque chose d'envisageable parce que c'est un rendement extrêmement important par rapport à d'autres huiles végétales. Donc effectivement, sur de plus petites surfaces, on peut produire beaucoup plus. C'est une culture simple. Donc effectivement, ça pourrait contribuer à la vie économique de certains pays. Tout est dans une question, je dirais, de fonctionnement raisonnable.
Parce aujourd'hui, est-ce qu'il existe des huiles de palme bio et est-ce que c'est...
Alors oui, il existerait. Enfin bon, après à vérifier, mais effectivement, il existe des huiles de palme bio, mais ça n'évite pas les déforestations, oui. Forcément, ça ne change pas grand-chose sur l'impact sur la santé, parce qu'en fait, c'est la constitution même de l'huile de palme qui pose problème. Donc, qu'elle soit bio ou pas,
ça éviterait déjà la santé des personnes qui sont exploitées pour.
Voilà, oui, pour tout à fait. Par exemple, on se disait aujourd'hui, on arrête l'évolution de la déforestation, on reste sur ce qui est à l'heure actuelle cultivé de cette façon-là et on essaye d'améliorer en allant vers du bio et en allant vers d'autres formes de culture. Bon, effectivement, ça pourrait être, mais c'est compté sans l'aspect, je veux dire, la logique industrielle est une logique de production d'argent. Donc effectivement, la raison face à ça et la modération est toujours difficile à revendiquer. Mais c'est vrai que c'est le modèle agricole qui est aujourd'hui en place qui rend cette culture particulièrement nocive, effectivement. Le label est loin d'être une véritable garantie.
Quels sont les pays producteurs les plus importants de palme?
Malaisie, Indonésie. 80-85% de la production vient de là-bas. Donc effectivement, il y a de véritables enjeux pour l'économie de ces pays-là. Mmh. Et donc effectivement, la réflexion pourrait être aussi comment évoluer en ne détruisant pas ce qui a pu se créer en termes d'économie locale. Alors, deux mots sur la question de la santé, effectivement. On a commencé à utiliser... Alors, à l'heure actuelle... on en trouve effectivement donc chez nous, dans l'agroalimentaire, énormément, quasiment partout. Si on se prend
déjà dans tous les produits préparés.
Oui, mais aussi dans certains produits, par exemple les bâtonnets de poisson frits, par exemple, qui ne sont plus frits dans de l'huile végétale, tournesol ou etc. Mais à l'heure actuelle, fréquemment dans l'huile de palme. Alors pourquoi ça a été autant développé? À vrai dire, c'est un produit qui est très pratique, facile à. Alors déjà, ça se présente comme de la margarine, c'est-à-dire c'est solidifié. Donc, au niveau du travail de la matière, ça crée moins la chaleur que le beurre, par exemple. Donc, ça reste une pâte facile. Sur le plan ensuite, c'est ce qui amène dans les produits finis le moelleux et le croustillant. Donc tout ce qui est brioche, biscuit, etc. et tout, ça permet d'avoir quelque chose qui effectivement sera à la fois moelleux et croustillant. Donc en termes d'appétence, c'est important. Et c'est aussi une forme de gras qui tient bien en termes de conservation. Donc, les brioches conservées 6 mois et qui restent souples, etc., c'est extrêmement intéressant sur le plan d'une production industrielle, bien sûr. Ça ne va pas rancir comme le beurre. Enfin, voilà, il y a
beaucoup d'avantages.
Voilà, oui. Techniquement, beaucoup d'avantages, plus un prix très bas aussi, forcément, vu les lieux de production. Donc, en effet, ça présente des attraits certains. En plus, alors, au départ, ça a été utilisé pour remplacer donc les graisses animales qui étaient plus difficiles à travailler et plus chères, comme le beurre, par exemple. Et donc, il y a eu, dans un certain temps, l'utilisation d'huile végétale hydrogénée, comme dans certaines margarines. On s'est aperçu que ces huiles hydrogénées favorisaient les maladies cardiovasculaires. Donc, est allé vers l'huile de palme.
Voilà, il fallait aussi trouver des huiles non hydrogénées.
Voilà, et donc l'huile de palme est arrivée pour répondre à ça. En plus, bon, elle a pas de goût, elle a pas d'odeur, donc on la désodorise. Mm-hmm. Bon, et donc effectivement, ça a été. Alors on en trouve, mais c'est vraiment partout. Les chips, donc on avait dit la pâte à tartiner bien sûr, mais des soupes lyophilisées, les biscuits, dans des laits pour bébés, vraiment la mayonnaise, la sauce tomate, enfin bref, céréales, chocolat, les glaces, partout.
Ah oui,
on
les
peut
glaces
en trouver partout.
Coco aussi, oui.
Oui. Donc. On en trouve aussi, donc l'utilisation est aussi dans les cosmétiques. Bref, bon, c'est vraiment...
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on voit bien que ça nous envahit partout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour...
Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'arrêter ou de diminuer ? Alors, une moralisation du marché, par exemple, pourrait être un axe, donc à l'échelle plus globale. Payer un peu plus cher et poser des conditions par rapport au travail des salariés, par rapport aux normes de santé, par rapport aux normes de travail, etc. Donc, moraliser le marché, à ce moment-là, les industriels et leurs actionnaires retireraient moins de bénéfices, mais on pourrait essayer d'aller vers un commerce équitable, au moins moralisé. Arrêter aujourd'hui l'augmentation de la arrêter la déforestation, l'augmentation des surfaces, etc. Rester sur ce que aujourd'hui existe. Une idée avait été posée aussi, qui était l'augmentation des taxes à l'importation. Puisque là, on a des taxes qui sont inférieures à celles qui sont utilisées, par exemple, pour l'importation d'huile d'olive ou des choses comme ça. Donc, pourquoi ne pas essayer d'aller dans ce sens-là ? Favoriser l'agriculture qui produirait chez nous, par exemple, des huiles qui viendraient en remplacement. On a aujourd'hui des cultures de colza, on pourrait avoir des cultures de carinata, favoriser ces cultures-là dans les agrocarburants au lieu de rester sur l'idée de l'huile de palme. Voilà, alors bon, creuser un peu l'histoire du label, effectivement, toujours aussi, donc aller vers une culture plus bio. Et je dirais, je pense aussi par rapport à notre action individuelle, citoyenne, je dirais qu'il serait aujourd'hui possible, par exemple, de faire pression sur nos élus et nos décideurs pour que globalement on aille vers ces systèmes un peu plus raisonnables, mais aussi regarder les étiquettes. Regarder les étiquettes aujourd'hui, choisir ces produits. Bon, il faut savoir que quand même, au niveau de l'agroalimentaire, les industriels, les producteurs, etc., et donc les hypermarchés, supermarchés et autres, ont quand même, en général, tendance à suivre le désir des consommateurs et à répondre aux demandes. Donc si nous, on pose, en tant que consommateurs, le fait qu'on préfère revenir sur certains produits contenant un peu de graisse animale ou bien du beurre ou bien d'autres types de graisse végétale et qu'on agit en conséquence et qu'on achète et qu'on recherche les magasins et les supermarchés qui font un effort en ce sens. Bon, on a des débuts à ce niveau-là, des brioches, je ne sais plus, j'avais vu un brioche pastrie d'or ou je ne sais plus, qui ne mettait pas d'huile de palme. Enfin, on commence à avoir certaines étiquettes qui disent sans huile de palme. Donc c'est vrai que notre capacité d'action, là, elle existe. On a fait, à France Nature Environnement, on a eu on a fait quelques petites recherches du type atelier pour fabriquer soi-même sa pâte à tartiner, etc. Donc, mais c'est donc il y a des possibilités, il y a des solutions qu'on peut prendre.
Est-ce qu'il y a une liste de tous les produits
qui contiennent de l'huile d'olive? Ça, c'est pas possible. C'est trop énorme. Mmh. C'est trop énorme aujourd'hui. C'est pas possible d'avoir. Enfin, c'est vraiment. C'est pas possible d'avoir la liste. C'était une idée effectivement qu'on avait envisagée.
On aurait pu boycotter ces produits.
Voilà. Mais je crois que il faut. Regarder les étiquettes, vraiment, et faire ses choix. Et on trouve des produits qui sont très bien, qui sont très bons. On trouve des biscuits, je ne sais plus, l'autre fois j'ai regardé, je crois que c'est Saint-Michel ou je ne sais plus. Bref, voilà, qui continuent à pratiquer une recette traditionnelle, donc avec du beurre, qui affiche et où on peut trouver encore, mais c'est vrai que il est important de se prendre en charge, je dirais, et de faire attention soi-même. Alors c'est aussi une question de choix de diététique personnelle. Parce que effectivement, on sait que les ados, par exemple, et c'est une des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a une consommation qui commence très tôt, qui commence dès l'enfance et qui est aujourd'hui, je pense, en lien avec l'augmentation de l'obésité, par exemple. Gras, huile de palme, sucre, ces deux éléments, ces éléments font effectivement le lit des problèmes futurs. Et donc les problèmes aujourd'hui cardiovasculaires sont une des grandes causes de problèmes de santé, de mortalité, etc. Donc c'est vrai que quelqu'un
beaucoup de la graisse de coco aussi. Est-ce que ça...
Oui, alors je ne sais pas. Je ne suis pas spécialisée sur ces questions. Mais je pense que le bon sens, parfois, dans son mode de consommation, nous met à l'abri de beaucoup de risques et de difficultés. On ne peut pas. Alors après, il y a toute la question de la communication autour de ces questions-là. On ne peut pas à la fois dire aux gens manger bien, manger moins, etc. et tout, et en même temps les solliciter de façon permanente, et notamment les enfants. Donc ce qui leur donne aussi des réflexes de consommation qui sont néfastes. Les habitudes alimentaires, c'est vraiment quelque chose qu'il est difficile de changer à partir de... Enfin, je crois que l'addiction au sucre, par exemple, elle est aussi forte que l'addiction à la cigarette. Et quand on a essayé d'arrêter de fumer, on sait très bien la difficulté que ça présente. Et donc, pour un enfant habitué à une forme de nourriture sucrée, ça va être extrêmement difficile. Et donc, là, on mêle dans certains produits, dans beaucoup de produits, pour les enfants, il y a les deux produits nocifs, je dirais, mêlés, le sucre et le gras, dont l'huile de palme en particulier. Et comme il n'y a pas d'obligation formelle, pas de contrôle véritablement, c'est très difficile d'arriver à savoir combien on peut... Les diététiciens disent qu'aujourd'hui, on en mangerait... j'avais vu une statistique du type 2 kilos par an, par personne. Mais parfois, c'est plus que ça. Enfin, certains disent presque un quart de trop par jour. Enfin bon, c'est vraiment... c'est
donc
compliqué.
Nos ressources à nous, consommateurs, c'est de faire attention à consommer, moi je dirais, moins de produits transformés, en fait.
Ça, c'est
moins
une...
de plats cuisinés,
oui.
Moins de biscuits.
Voilà, essayer de... Effectivement, et de... Il n'est pas question de se mettre à la diète totale, mm-hmm. d'avoir un régime extrêmement spartiate, mm-hmm. sur le plan alimentaire, mais simplement, il y a une différence entre manger de temps en temps quelque chose qui contient de l'huile de palme et en consommer tous les jours, deux fois à trois fois par jour, dans tous les aliments qu'on ingurgite. Je crois que c'est...
Donc ça, c'est à notre échelle et à une échelle gouvernementale. Donc,
eh bien, oui, à une échelle gouvernementale, c'est réfléchir à cette question de l'importation, de mettre des limites à l'importation, d'arriver à égaliser les formes de taxes selon les produits, selon les huiles importées, à essayer de favoriser l'agriculture qui produira des éléments de substitution ou d'autres types d'huiles, d'augmenter le recyclage de tout ce qui est graisse animale, etc. Donc voilà. Et puis de peut-être faire pression aussi sur les industriels et les producteurs de l'agroalimentaire pour essayer de développer, de revenir à d'autres formes de produits, peut-être moins pratiques, moins faciles, moins bien techniquement, moins faciles à travailler, mais qui soient préférables pour la santé.
Ça va être l'heure de se quitter. Est-ce qu'il y a deux mots à dire par rapport à cette raffinerie qui va donc s'ouvrir très prochainement?
Donc l'autorisation d'exploiter, ça devrait démarrer dans l'été prochain. Donc c'est une ancienne unité de une raffinerie d'hydrocarbures, de pétrole. Qui est maintenant. Donc ça
c'est
être...
au bord de l'étang de Berre, à Châteauneuf-les-Martigues.
C'est ça.
Martine Vallon, à bientôt.
À bientôt.
Merci pour cet éclairage.
Merci.
Sur l'huile de palme.
Merci
et bien sûr tout ce que ça entraîne. Au revoir.
Au revoir.
Hey, Lleva velo en el coñeque, lleva goama, tamanibi monae, pacari ambi, ausu, eiri, diri, 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 diri,